Il est 6 heures précises à la météo aujourd'hui. Ce qu'on prévoit, c'est une alternance de soleil et de nuages. 60 % de risque d'averse cet après-midi. Il y a aussi un risque d'orage et de la fumée par endroits. C'est rare qu'on retrouve ça dans les bulletins météo, mais c'est amené par ces incendies au nord de l'Ontario. Alors, les vents qui sont dominants, là, qui nous amènent cette fumée, il va y en avoir toute la journée aujourd'hui. On parle d'un maximum de 27 degrés. L'humidex à 33 pour aujourd'hui. Ce sera partiellement nuageux. On parle de 60 % aussi de risque d'averse pour tôt ce soir, toujours avec ce risque d'orage et encore de la fumée. Alors demain, généralement nuageux, il y aura un dégagement qui va s'opérer durant la journée, nous amenant un maximum très confortable de 22 degrés demain. Et pour mercredi, on parle de 25 degrés avec du soleil. Ça va demeurer plus frais là au cours des prochains jours. Le mercure qui ne dépassera pas le 25 mercredi, ensuite ça tombe à 22, 21. Alors ça va être plus frais un peu, mais peut-être la journée de jeudi, il y a un risque d'averse là. Mais les températures vont être plus douces, ça c'est clair. Il fait 19 en ce moment à Montréal. Bon, alors, on parle beaucoup de cette fameuse loto-vaccin qui a connu des pannes au cours de la fin de semaine. Là, on m'indique, il y a des gens qui m'ont écrit, au moins 3 personnes qui m'ont envoyé des courriels pour me dire que ça fonctionne là ce matin. Moi, j'ai essayé puis ça marche pas. De mon bord, ça ne fonctionne pas quand j'essaie de me brancher. Ça m'indique, dû à un fort achalandage, le site d'émission de la preuve vaccinale et d'inscription au concours est temporairement non disponible. Veuillez tenter de vous réinscrire un peu plus tard. Ça, c'est de mon côté. Mais il y a au moins 3 personnes qui m'ont écrit pour me dire que de leur côté, ils ont essayé, puis ça fonctionne. Mon fils, d'ailleurs, a réussi à s'inscrire, mais moi, je suis pas capable. Je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, toujours est-il que ça a connu des ratés au cours de la journée d'hier. Ça n'aura pas permis là, à bien des gens de s'inscrire parce que, justement, il y avait un débordement, dit-on, alors un fort engouement au début. Est-ce que ça va avoir un impact sur le taux de vaccination? Ben, il y a des experts qui en doutent beaucoup parce qu'ils disent, ben, les gens qui sont déjà vaccinés vont peut-être y aller, oui, en masse, là, parce qu'ils ont déjà le vaccin, mais ça n'aura pas nécessairement d'impact très important, dit-on, sur le taux réel de vaccination. Tout le monde qui a été vacciné peut s'inscrire, pas seulement ceux qui viennent de se décider à s'inscrire. Alors, une chance sur 80 % de la province, c'est pas un gros incitatif, peut-on lire. Ça, c'est le virologue et immunologue Alain Lamarre qui le dit. Il est de l'Institut national de recherche scientifique. Lui, il pense que oui, ça va avoir un impact, mais ce sera pas un impact majeur. Mais pendant ce temps, l'autre décision ou l'autre permission qui a été accordée par Santé Québec, c'est celui de la troisième dose. La décision a été prise vendredi de dire les gens qui veulent voyager et qui ont soit des doses croisées, là, c'est-à-dire une dose de Pfizer, une dose de Moderna ou une dose d'AstraZeneca avec du Moderna, les combinaisons comme ça, ne sont pas toujours reconnues, entre autres des compagnies de croisière ou même dans certains pays, c'est pas reconnu le mélange des doses. Alors là, on dit, ben, on pourrait, si vous avez à voyager, on pourrait vous donner une troisième dose qui permettrait de régler ces problèmes-là. Sauf qu'il y a des Québécois qui voulaient justement avoir cette troisième dose parce qu'ils voulaient voyager, qui sont rendus dans des centres de vaccination sans rendez-vous et qui se sont fait dire, ben voyons donc, on fait pas ça. On donne pas la troisième dose. Dans un autre centre dans la région de Québec, on a dit, ben oui, on peut vous le donner, mais ça prend une preuve que vous allez voyager à court terme. Donc, amenez-nous votre billet d'avion, là, puis on pourrait vous donner la troisième dose. Bref, il semble y avoir une confusion sur cette décision du gouvernement d'accorder la troisième dose. D'ailleurs, il y a des certains professionnels de la santé qui disent, c'est bien beau là, la troisième dose, mais avant d'aller avec ça, là, renseignez-vous un peu parce que on n'est pas sûr que ce soit l'idée du siècle. C'est pas nécessairement... il n'y a pas eu de tests qui ont été faits. Dans le journal Le Devoir, on dit, entre autres choses, que cette mesure est exceptionnelle et la personne devra être conseillée adéquatement pour être informée des risques potentiels associés à cette dose additionnelle. Alors ça, c'est ce qu'on peut lire quand vous allez sur le site du gouvernement du Québec. Et il y a des gens qui disent, ben, on y a pas vraiment d'études qui démontrent les effets de cette troisième dose. On pense pas qu'il y ait de risque majeur, mais il n'y a pas d'études à proprement parler qui ont été faites sur les risques que ça peut comporter de recevoir une troisième dose de vaccin. Alors, des experts disent, peut-être que la prudence pourrait être de mise dans ce cas-ci, parce qu'on ne sait pas de quelle façon ça va virer. Alors, soyez donc prudents, mais sachez-le, si vous décidez d'y aller avec cette troisième dose, ben sachez qu'il pourrait y avoir des conséquences, ou en fait, allez-y en compréhension des risques que ça pourrait amener. Il y a différents points de vue intéressants aussi ce matin, des analyses sur certains quartiers, entre autres, qui sont plus réfractaires à la vaccination. On vous en parlait vendredi dernier. Entre autres, dans le secteur de Montréal-Nord, c'est probablement le quartier à Montréal où le taux de vaccination est le moins élevé. Et l'arrondissement présente le plus haut taux de cas de COVID-19 également depuis le début de la pandémie à Montréal. Alors, il semble y avoir une situation particulière là-bas, mais il y a des experts ou des gens qui travaillent dans le milieu qui ont été rencontrés par le journal Le Devoir et qui disent c'est pas une question. Souvent, ça peut être une question qui est liée à la richesse des gens, à la pauvreté des gens, parce que moins évidemment les revenus sont élevés. On l'a vu là, les gens doivent travailler davantage. Souvent, ce sont des gens qui ont des conditions de travail précaire. Il y a beaucoup de gens qui travaillent aussi dans le milieu de la santé qui ont été touchés, donc peut-être plus de façon plus importante, des travailleurs de première ligne par la pandémie. On dit que la couverture vaccinale de l'arrondissement là-bas de Montréal-Nord continue à traîner de la patte. On est à 69,5% des personnes qui ont reçu une première dose, alors que dans l'ensemble de la province, c'est plutôt 73% des 12 ans et plus. Et quand tu dois choisir entre aller à l'épicerie, prendre soin de tes enfants, quand il y a peu de garderies ou de transports publics dans le secteur, ton intention de recevoir ton vaccin descend parfois de la liste et des choses à faire, illustre Isabelle Ruellan, qui est une travailleuse dans le milieu, justement là-bas, une intervenante dans le secteur de Montréal-Nord. Alors, les immigrants étaient plus susceptibles de mourir de la COVID-19 que les non-immigrants également durant la première vague. Ça a été bel et bien démontré scientifiquement. Et en ce sens-là, pour aller dans la même direction, il y a une étude intéressante ou un sondage qui a été fait pour le compte de l'Université McGill et qui démontre que les personnes de race noire, les personnes racisées, ont plus tendance à avoir la COVID-19, ont été frappées plus fort par la COVID-19. Et le sondage a été fait par la maison Léger, là, pour le compte d'une étude qui est réalisée à l'Université McGill. Et ça démontre que au moins une personne sur 10 des jeunes adultes noirs à travers le Canada ont eu la COVID-19 durant la pandémie. C'est 2,5 fois plus important que le reste de la population. Et pourquoi c'est comme ça? Ben souvent, ce sont des gens qui ont été des travailleurs de première ligne, entre autres, particulièrement là, des gens qui ont travaillé dans des CHSLD, par exemple, qui ont été exposés à la COVID-19 de façon plus importante, ou qui avaient des membres de leur famille qui étaient des travailleurs de santé en première ligne, donc qui étaient aussi davantage touchés que les autres. Alors, c'est ce qui expliquerait justement le fait que on retrouve 10% des personnes de race noire qui seraient touchées, mais même on dit que ce serait sous-estimé, cette évaluation-là qui a été faite par un sondage de Léger Marketing. Alors, donc, c'est une réalité qui est démontrée scientifiquement parce que, justement, il y a ce bassin de population qui est intervenu davantage auprès des gens en première ligne. Bon, évidemment, on a beaucoup et énormément parlé en fin de semaine du repêchage du Canadien, entre autres, qui est allé chercher Logan Mailloux, un défenseur, dit-on, qui est très mobile, un défenseur de fort gabarit qui dit que, en fait, qui semble-t-il, est très bon. Là, on dit que c'était le meilleur choix au repêchage disponible sur le plan sportif quand le Canadien l'a sélectionné au 31e rang. Mais la raison pour laquelle il est encore là, c'est parce que les autres équipes ont décidé de lever le nez dessus. Parce que Logan Mailloux traîne un passé peu enviable. Quand il avait 17 ans, puis qu'il jouait au hockey en Suède, Il a pris des photos non sollicitées, en fait, non acceptées par une jeune fille avec qui il est en train d'avoir une relation sexuelle. Et il a partagé sans son consentement cette photo parmi les joueurs de son équipe. Alors, il a reçu une amende des autorités suédoises. Et évidemment, c'est pas le genre de personnage que tu veux avoir sur le plan marketing. C'est pas très bon là pour l'équipe. Alors, ça a été décrié, ça a été très, très polarisé au cours de la fin de semaine. Il y en a qui ont dit, il faut donner une deuxième chance. Logan Mailloux, dans un... En fait, une conférence qu'il a faite sur Zoom après sa sélection a été repentant en disant que c'était une idée stupide puis qu'il s'en voulait, puis etc. Là, mais il y en a qui disent que ce n'est pas suffisant. Et on entendait, on voyait en fait Isabelle Charest, la ministre de la Condition féminine, qui disait en fin de semaine quel message ça envoie. C'est pas très fier du Canadien de Montréal parce que ça n'envoie pas un très, très, très bon message, alors que le Canadien jouissait justement d'une... Depuis sa participation aux séries éliminatoires, d'une espèce de vague d'amour, il y a plusieurs supporters qui ont dit « Mais là, c'est quoi cette décision-là? » Bref, ça a été extrêmement polarisé au cours de la fin de semaine. On va essayer de voir un petit peu plus tard dans cette émission quel pourrait être l'impact sur l'image du Canadien, parce que là, on est rendu un peu dans ces analyses-là depuis justement ce repêchage. Bon, à part ça, les vacanciers font déborder les urgences dans les Laurentides. Parce que, évidemment, il y a eu toute cette vague là, de COVID-19 qui a mis une pression sur le réseau de la santé. Là, les travailleurs de la santé ont décidé de prendre des vacances bien méritées. Mais comme les gens se sont rués vers les régions depuis les vacances de la construction, entre autres, bien là, il arrive des événements où les gens doivent se rendre à l'hôpital. Et c'est le cas dans les Laurentides, où les hôpitaux étaient déjà sous pression. Hier, à Saint-Jérôme et à Saint-Eustache, les urgences affichaient un taux d'occupation de 175 et de 126. Et l'achalandage coïncide avec un taux d'absentéisme élevé parmi le personnel qui est parti en vacances. Et donc, et ça, nombre de patients seraient notamment... des patients qui ont été blessés dans des accidents de VTT ou qui ont eu des malaises alors qu'ils étaient dans des chalets. D'autres viendraient aussi des glissades d'eau du parc national d'Oka ou encore du Beach Club de Pointe-Calumet. Et ça ajoute une pression là sur les urgences des hôpitaux. La situation serait différente dans l'est du Québec, mais dans le secteur des Laurentides, c'est assez éloquent là, la façon dont ça se répercute. Et ça, c'est une histoire assez particulière. Une dame, en fait, j'ai connu une situation semblable il y a deux semaines avec des amis. On avait loué un chalet dans les Laurentides. Et quand on est arrivé au chalet, il y avait déjà quelqu'un qui était là. On dit, bien voyons donc, on a loué le chalet, c'est nous autres qui a loué. Puis les gens étaient là, eux autres, ils disaient, êtes-vous les propriétaires du chalet? Parce qu'on a loué, puis là, on n'est pas capable d'entrer à l'intérieur. Alors, on a dit, c'est parce que c'est nous autres qui l'a loué le chalet. Ils ont dit, ah oui? Et finalement, en jasant avec eux, ils se sont rendus compte qu'ils s'étaient fait avoir, puis ils essayaient d'appeler la personne de qui ils avaient loué le chalet. Puis il y avait un contrat en bonne et due forme, là, reçu par courriel, qu'ils avaient signé et retourné ensuite. Ils avaient fait un paiement, un dépôt de 680 $ dans le cas que nous, on a connu. Puis finalement, quand ils essayaient de rejoindre la personne qui avait loué le chalet, bien, il n'y avait plus de numéro de téléphone, ça ne fonctionnait plus. Alors, il s'était fait avoir. Eh bien, une situation semblable est arrivée aussi à une petite famille qui avait loué, cette fois-ci, une roulotte. Alors, des dizaines de Québécois ont vu leurs vacances tomber à l'eau lorsqu'ils se sont aperçus que la roulotte qu'ils croyaient avoir louée sur Internet n'existait pas réellement et que finalement, le vendeur s'était volatilisé avec leur dépôt. Il y a une dame qui s'appelle Stéphanie Aupin qui est racontée au Journal de Montréal avoir vécu cette expérience-là. Ils avaient magasiné sur Marketplace, l'application de Facebook, pour trouver cette roulotte-là qui était parfaite pour leurs besoins. Elle a deux enfants, la dame, puis... Elle disait, on va louer la roulotte, on va partir en vacances, ça va être parfait. Or, quand ils ont pris contact avec le vendeur, bien, la mère de famille lui a envoyé un dépôt par Interac de 150 $ comme demandé. Ils ont reçu le contrat, ils l'ont signé, un contrat qui semblait en bonne et due forme. Puis quand ils ont voulu recevoir leur roulotte, bien, finalement, il n'y avait pas de roulotte en réalité. Alors, ils se sont fait avoir carrément, comme plusieurs personnes. Chez Option Consommateur, on dit, ne donnez jamais de dépôt via Interac, parce que c'est comme si vous donniez de l'argent comptant. Or, vous n'avez aucune protection. Alors, faites ces paiements-là via une carte de crédit, parce qu'au moins, vous aurez un recours pour arrêter le paiement ou quoi que ce soit. Donc, auprès des cartes de crédit, ça va mieux. Mais là, il semble qu'il... Parce qu'elle a porté plainte à la police, puis il y a des gens, d'autres personnes qui ont porté plainte à la police. Il semble que on ait plusieurs témoignages qui pointent vers un individu en particulier, un multi-récidiviste de la fraude qui se serait fait, qui serait sous enquête par la police en ce moment. Mais sachez que ça court. Vous savez, quand vous louez quelque chose puis c'est trop beau pour être vrai, mais des fois, c'est parce que c'est trop beau pour être vrai. Des fois, c'est pour ça. Alors, soyez vigilants si vous ne voulez pas vous faire avoir. Bon, à part ça, qu'y a-t-il d'autre dans les différents... Ah oui, ça, c'est la COVID a amené aussi un paquet de gens à se tourner vers des moyens de transport alternatifs. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont décidé d'éviter les transports en commun. Alors, donc, ils se sont tournés vers du transport alternatif, des trottinettes électriques, par exemple, des vélos électriques. Vous savez, les fameux hoverboards électriques là, qui ressemblent à des espèces de planches à roulettes là, avec deux roues. Là, puis il y a aussi le Segway, il y a un paquet de même des planches à roulettes électriques. Alors, sachez que c'est interdit sur les pistes cyclables, ces engins-là. Et l'amende pourrait aller jusqu'à 200 $, de 30 à 200 $. Les seuls équipements électriques qui sont tolérés sur les pistes cyclables, c'est les vélos qui sont dits électriques. Mais il y a aussi les quadriporteurs, les triporteurs, ça c'est autorisé. Les patins à roues alignées, les planches à roulettes non motorisées, les fauteuils roulants aussi sont autorisés. Mais tous les autres équipements de ce genre-là, c'est interdit en ce moment. Alors il y a une espèce de vide, j'allais dire juridique, là, parce que ça, quand les règles des pistes cyclables ont été établies, ces engins-là n'existaient pas. Puis ça se vend à peu près partout maintenant. Là, il y a un engouement, un fort engouement pour ça. Et d'ailleurs, même sur les routes, il y a plusieurs de ces engins-là qui sont normalement interdits. Alors, ça fait en sorte que le ministère des Transports va se pencher sur une réglementation accrue de ça. Parce qu'en ce moment, là, c'est un peu le flou. On ne sait pas trop ce que c'est au juste. Et puis, à part ça, revenons encore une fois sur les urgences. Depuis le 24 mars 2020, on n'a jamais compté si peu de malades de la COVID-19 dans les hôpitaux. Au 22 juillet, il y avait 67 hospitalisations au total au Québec liées à la COVID-19. Si on regarde le 20 avril dernier, là, juste à titre de comparaison, c'était 716. Alors, c'était sûr que la vaccination qui avance a un effet sur les hospitalisations, mais si c'est la fin de la médecine de guerre, dit-on dans le journal La Presse, ce n'est pas la fin, le retour à la normale pour autant, parce que, bien sûr, on l'a dit encore une fois, là, il y a beaucoup de rattrapage à faire sur les opérations, entre autres choses, les opérations, par exemple, normales, là, qui ne sont pas liées à la COVID, mais aussi parce qu'il y a beaucoup de personnel qui est parti en vacances ou encore qui était épuisé. Alors, creux de vague qui permet de donner des congés à des employés épuisés, mais qui ne permettent pas quand même là, d'aller aussi vite qu'on voudrait pour rattraper les listes d'attente. Et ça, c'est très inquiétant. Mais il y a encore des gens malades. Et il y a un témoignage, encore une fois, ce matin, quelqu'un qui était à l'hôpital général juif, qui s'appelle Shamim Mohamed, qui est l'un des trois malades de la COVID-19 là-bas. Donc, il y en a très peu. Mais une personne qui est très malade, qui a été frappée très durement par la COVID et qui peut, pour la première fois, respirer par lui-même depuis tout le temps où il est hospitalisé. Un homme de 62 ans qui a contracté la maladie avant d'avoir pu se faire vacciner. Il ne peut toujours pas parler en ce moment parce qu'il n'en a pas la force. Alors, tu sais, quand vous dites que la COVID-19, ça frappe fort, puis ça peut avoir des conséquences très graves, tous les médecins étaient convaincus que ce bonhomme-là allait mourir, mais il a passé 3 mois dans le coma. Évidemment, il y a eu l'assistance respiratoire, il était intubé, tout ça, donc ça hypothèque un peu physiquement sa gorge et tout ça. Alors, c'est un succès parce qu'il va vivre, mais s'il n'avait pas eu cette maladie, il serait en pleine forme, note le docteur Paul Warshawski, qui est le chef de l'unité des soins intensifs de l'hôpital général juif. Et c'est ce qui lui fait dire, c'est pas parce que ça va mieux dans les urgences qu'il faut être moins vigilant, parce que justement, la COVID, quand elle frappe fort.